Pendant des siècles, l'Église a eu tendance à envoyer les pécheurs en enfer. Et maintenant, aujourd'hui, elle a tendance à les envoyer au paradis. C'est un scandale dans un cas comme dans l'autre. C'est un scandale de les envoyer en enfer, non pas de les alerter. Ça, c'est une mission prophétique. Non pas les alerter, mais de s'y résigner, voire pire encore, de s'en satisfaire, voire même de s'en réjouir, de ne pas tout faire, et c'est-à-dire prier de toutes ses forces pour que ça n'arrive pas. L'enfer est une force de dissuasion. Nous avons supprimé la peine de mort parce que nous avons estimé qu'elle était insuffisamment dissuasive. Je ne parle pas de son caractère indigne, parce que ce qui est indigne aujourd'hui, c'est l'état de nos prisons. Mais c'est le paradoxe de notre société, dont l'indépendance, la sécurité nationale repose sur la dissuasion nucléaire, et notre société n'y croit pas pour la vie des personnes. Bien sûr que si l'enfer peut être dissuasif. Le curé d'Ars, pour consoler une femme dont le mari s'était jeté d'un pont, s'était suicidé, lui dit que entre le parapet, entre le pont et l'eau, il y a la place pour le repentir. Il y a le temps de voir les portes de l'enfer, le temps de crier « Seigneur, sauve-moi !» Oui, il a pu se convertir s'il a vu les portes de l'enfer. S'il a été catéchisé, si on lui a annoncé, si on lui a dit. Saint Paul, à propos d'un homme dont l'inconduite était plus que scandaleuse, dit « Il faut livrer cet individu au pouvoir de Satan pour la perdition de son être de chair, ainsi son esprit pourra être sauvé au jour du Seigneur. » C'est en voyant l'enfer que certains cœurs endurcis pourront réagir. Le génie du diable, c'est pas de faire croire que lui-même n'existe pas, c'est de faire croire que l'enfer n'existe pas. Et c'est un scandale de perpétuer ce mensonge. Plusieurs personnes sont venues me voir ces semaines et mois derniers, parce qu'elles avaient été plus que troublées, parfois choquées par l'éloge qui avait été rendu à des défunts lors de funérailles, lors de suicides. Mais elles disaient, mais on veut le donner en exemple? Jusque dans les années 60, l'Église refusait de célébrer, dans les cas de suicide, des funérailles religieuses. C'était une double peine pour la famille et pour les proches. Qu'est-ce qu'on faisait alors? On travestissait en accident ce qui était des accès de désespoir, de souffrance. C'était des accidents de chasse ou de toutes sortes de formules consacrées. Mais on fait un mensonge inverse aujourd'hui quand on banalise le suicide. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il suffit de se promener dans les églises, d'assister ici et là à des célébrations de funérailles. Partout en France, quel que soit le diocèse, quelle que soit la taille de la ville. Souvent c'est misère, misère. Nous avons sûrement pas perdu la guerre, mais nous avons perdu une très sévère bataille contre l'athéisme, contre le matérialisme, contre la désespérance, en n'y consacrant pas toutes nos forces, en ne le traitant pas comme la priorité première. C'est le premier lieu de compassion et d'évangélisation. Où sont les prêtres, la plupart du temps, lors des obsèques? Alors, on dit, il n'y en a plus. Dans certains cas, oui, mais ce n'est pas le plus souvent. Ils ne s'en occupent plus. Ils ont sorti de son contexte la parole de Jésus « Laisse les morts enterrer les morts ». Ils ont laissé dans tant d'endroits aux personnes les plus âgées de communauté, aux retraités qui étaient à la fois disponibles et très pieux, la préparation et la célébration des funérailles. Je sais bien qu'il y a un vieillissement de la population, mais on ne peut pas faire de la mort un truc de vieux. Vous connaissez la formule de Jésus qu'il emploie souvent. À qui vais-je comparer cette génération? Eh bien, elle ressemble à des médecins surchargés de travail qui laisseraient les cas les plus graves à des bénévoles. Parfois, dans l'Église, nous nous moquons, regardons avec une certaine condescendance, les baptêmes républicains. Nous nous moquons des baptêmes républicains et nous multiplions les enterrements laïcs. Sans célébration du mystère de Pâques. Sans rappel des fins dernières. C'est une expression qui m'est venue du père d'un homme jeune qui est décédé cet été, brutalement. Il m'a dit, là où on était dans sa province, il m'a dit, il y a eu une cérémonie laïque à l'église. L'absence d'implication des prêtres et des diacres dans la préparation des funérailles a entraîné cette pratique que vous connaissez, bien installée désormais, des témoignages des proches. Pour une raison simple, pour éviter que la cérémonie soit trop impersonnelle. Ce sont des témoignages qui sont souvent très émouvants, qui contribuent effectivement au travail de deuil. Mais le travail de deuil, ce n'est pas le jour de l'enterrement. Il faudrait encore que nous laissions collectivement dans nos sociétés le temps nécessaire à ce travail. Pas quelques heures, quelques jours. Des semaines, des mois, parfois un an ou deux, plus. C'est une violence scandaleuse que la pression faite sur toutes les personnes endeuillées par la société, collectivement, de vite passer à autre chose. Il vaut mieux entrer dans la vie éternelle amputé d'une partie de son entourage que de renier l'appel profond de son cœur à prier pour nos défunts, pour ceux qui nous ont quittés. Je constate que souvent ceux qui n'allaient pas à la messe, ils retournent après un deuil. Et ceux qui allaient déjà à la messe, ils vont plus souvent en semaine. Parce que chaque jour, la messe est dite pour les défunts, pour ce que nous appelons toujours les âmes du purgatoire. Lors des obsèques à l'église, l'accueil. L'accueil, c'est la mission du prêtre ou du diacre, du représentant ordonné de l'évêque ou de l'église, et de l'église. C'est à lui qu'il revient de dire quelques mots du défunt, quelques mots qui ont évidemment été préparés avec la famille. Et en commençant par dire du bien de la personne, pour que les gens écoutent, et parce que c'est le principe de l'intercession. J'ai moi-même déjà fait l'erreur de ne pas dire suffisamment de bien, parce que c'était une crapule. Mais elle ne l'était pas, elle ne l'est pas pour ceux qui l'aiment. Alors, effectivement, ce bien doit être vrai. Ça demande une somme de recoupement, de vérification. Mais quand ce bien est dit par un prêtre ou un diacre, au nom de l'Église, cela prend une toute autre force, ça devient sacré, c'est assumé par l'Église. Et ça permet de réserver les éventuels témoignages à la fin de la célébration, parce qu'il plonge fatalement chacun dans ses propres émotions, dans ses souvenirs, ses sentiments, au détriment de l'unité de l'Assemblée, de l'unité des cœurs, de la prière commune. C'est le Christ qui fait l'unité, c'est le Christ qui fait l'espérance, le Christ qui fait l'unité, pas le chagrin. Cet accueil à la messe, mais aux célébrations, mais à toute célébration, est nécessairement bref, parce que son rôle, c'est de préparer à l'écoute de la parole de Dieu. Faut-il rappeler encore des textes exclusivement bibliques qui composent la première partie de toutes nos assemblées. Parce qu'à l'Église, le premier qui parle, c'est Dieu. Et ces textes, voilà ce qu'il faut dire à vos entourages. Non, ils ne sont pas plus difficiles que la plupart des textes qu'on entend, qu'on consomme, qu'on lit par ailleurs. Des générations et des générations se sont laissées façonner par la parole de Dieu. Alors, sans doute, oui, c'était des textes qui entraient probablement moins en contradiction avec leur mode de vie. Toute mort résonne comme un appel à la conversion. Et d'expérience, je peux vous assurer que la douleur de la famille, des proches, est autrement plus forte quand le défunt n'a jamais rien dit de son espérance, de sa foi, de ce qu'il croyait. Combien de familles je reçois, je les interroge, que croyait-il, que disait-il effectivement de la mort, surtout quand elle a été annoncée, prévue. Le plus grand service que vous puissiez rendre à vos enfants et à vos petits-enfants, à vos familles et à vos amis, c'est de leur dire ce que vous croyez personnellement qu'il arrive après la mort. Il ne s'agit pas de les inquiéter excessivement, pas de les bassiner non plus avec ça. Descartes disait, pas plus de 2 heures de métaphysique par an. Mais de votre courage dépendra leur courage. De votre espérance dépendra leur espérance. Qu'il n'en soit pas le moment venu à se tourner désespérément vers des souvenirs. Nous avons tellement mieux à offrir. L'amour en personne. Le Dieu de miséricorde. Je crois à la résurrection des morts et à la vie éternelle. Une des plus grandes angoisses de la mort, c'est la douleur de ceux qu'on aime. La meilleure façon de limiter ce chagrin, c'est de mener une vie droite. La meilleure façon de limiter le chagrin des proches au moment de notre mort, c'est de mener une vie droite. Le Christ, c'est ce que nous avons entendu dans l'Évangile, rappelle à tous ceux qui ne veulent pas l'entendre que l'intégrité morale est sans comparaison avec l'intégrité physique. Lui-même a accepté que son corps soit atrocement martyrisé. Il n'a jamais commis le péché. La douleur de sa mère a été infinie. Son espérance a été récompensée. Le Christ est mort jeune, moins de 40 ans, pour que nous ne fassions pas de la mort un truc de vieux. Et il est ressuscité pour que nous sachions comment ça finit. C'est un scandale d'envoyer les pécheurs en enfer, et c'est un scandale de les envoyer au paradis directement. C'est un scandale de faire l'impasse sur le jugement des vivants et des morts. Comme le dit saint Paul à la fin de la lettre aux Romains, tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, toute créature tombera à genoux devant moi, et toute langue acclamera Dieu. Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Comment fera-t-il pour tomber à genoux devant Dieu, celui qui ne l'aura jamais fait de sa vie?